L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïlus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Avant d'être odieusement interrompu semaine dernière par le fameux temps imparti.
Oui, oh, c'est pas grave. Hein.
Vous nous disiez
normal
d'ailleurs
d'être
que
interrompu. Hein.
Vous nous disiez que vive l'école, quoi, en gros.
Oui, 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 tout à fait. Et là, j'allais terminer, mais je vais reprendre. Donc, sur une idée, quand on parle de, j'ai employé exprès, vous allez l'entendre, le mot grand œuvre. Bon, le grand œuvre a une, disons, forte connotation du compagnonnage, hein, qui a elle-même, on va dire, été réemployée dans une autre connotation de certains de nos groupes de connaissances, d'accord, où on parle de grand œuvre. Je reste prudent. Bon. Le grand œuvre, qu'est-ce ? Eh bien, c'est justement ce qu'on pourrait appeler un chef-d'œuvre, à la fois artistique, culturel et intellectuel. Le grand œuvre des moines a été précisément de révolutionner l'agriculture. Je ne quitte pas cet aspect de Ken Follett, hein. Bon. Bien, le grand œuvre de révolutionner donc l'agriculture et de ce fait la vie rurale, mais aussi de contribuer à l'édification intellectuelle, culturelle et artistique des populations rurales et urbaines. À ce propos, maintenant, nous allons entrer dans la question des apports culturels des moines et moniales à partir du VIe siècle. Alors, là, on entre dans un nouveau domaine, parce que l'écriture, l'architecture, les arts, la musique, le chant, tout ça, c'est dans le domaine hors du religieux, du culturel. Eh bien, environ 100 ans plus tôt, c'est-à-dire à la fin du 5e siècle, le vieil empire romain, ou plus exactement le bas-empire, achève de s'écrouler, sous le choc des invasions barbares, germaniques, et la civilisation menacée ainsi de disparaître. Alors, il y a une chose révélatrice, c'est que le dieu suprême des barbares germaniques fut qui ? Odin, dieu de la guerre. De plus, arrivèrent les Huns, qui étaient membres des tribus mongoles et qui, eux, déboulent à partir de la fin du IVe siècle. Depuis l'Asie centrale, ils franchissent le Rhin, le Danube et ils ravagent tout l'Empire romain. Alors, en réaction, Théodose Ier, le grand empereur romain et d'Orient, qui avait péniblement, il faut le dire parce qu'il a eu beaucoup de mal, réunifié l'Empire, confie à son fils Arcadius le gouvernement de l'Orient et à son autre fils Honorius le gouvernement de l'Occident. Maître de l'Occident, Honorius fait de Ravenne, la magnifique ville italienne avec ses églises et notamment les mosaïques de Ravenne, fit de Ravenne sa capitale. Oui, mais les choses se passent rarement comme on le veut. Et elles sont allées là de mal en pis. Et en 410, voilà que Rome est prise et mise à sac par les Visigoths d'Alaric. Le temps passe, et en 452, grâce à l'intervention du pape Léon Ier le Grand, le redoutable Attila, qu'on appelle le fléau de Dieu, et ses terribles Huns quittent l'Italie. Est-ce que ça va suffire ? Eh bien non. En 455, Rome est à nouveau pillée, c'est-à-dire à peine 3 ans après, hein, Rome est à nouveau pillée et mise à sac par les hordes vandales, ce qui, elles, venues d'Afrique. Alors, on avait les gens qui venaient du Nord, maintenant voilà ceux qui viennent d'Afrique. Après avoir traversé l'Espagne et la Gaule. Et puis, en 476, Odoacre, chef germain, c'est-à-dire allemand, des Hérules, dépose le jeune empereur romain Romulus Augustule et s'autoproclame patrice des Romains et roi des barbares d'Italie. Le pire, vraiment le pire, est donc arrivé. Le pire est installé. Et le pire est arrivé avec la ruine de l'Empire romain et la victoire des barbares germaniques, dont les divers rois considèrent les restes de l'ancien empire comme relevant de leur propriété individuelle, personnelle, n'ayant de compte à rendre à personne, sinon à eux seuls. Là, on est en pleine autocratie et en pleine dictature. Trop occupés à guerroyer, ils laissèrent le gouvernement intérieur de leur royaume aux notables locaux. Eh oui, seulement ceux-ci, non contrôlés, firent exactement ce qu'ils voulaient, et de ce fait, opprimaient le petit peuple. Car vous pensez bien que tant qu'on peut manger le plus possible de fromage, va-t-on, hein, se perturber la cervelle pour les pauvres gens qui l'ont travaillé et l'ont fait? Non, la seule chose, on les exploite. Ce fut d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette gouvernance s'avéra des plus fragiles. Profitant de cette anarchie, Théodoric, alors à la tête des Ostrogoths, descendit en 489 sur l'Italie, fit assassiner le roi Odoacre et ses affidés, puis gouverna tout le royaume pendant 30 ans, il faut le reconnaître avec sagesse. Ça, il faut dire, il a mis la paix, il a été sage. C'était un homme cultivé. Et il a fait embellir sa capitale, la ville de Palerme, en laquelle, jeune prince, d'ailleurs, il avait été élevé. Eh oui, il avait été élevé là. Alors, malheureusement, tout ce qui est beau a une fin. Ensuite, ce fut le règne de Justinien Ier, empereur d'Orient, qui, il faut le reconnaître, reconnaissons-lui cela, a été aidé, entouré d'excellents généraux. Et ces hommes ont tenté d'unifier l'Empire, et pour cela ont détruit les deux royaumes ariens, Vandales d'Afrique du Nord et Ostrogoths, en Italie. Mais vous comprenez bien que la situation était quand même fragile. L'empereur était bon, mais surtout grâce à ses généraux. Donc, la situation est fragile. Alors, cette période faste n'a pas duré. Et à la mort de l'empereur Justinien en 565, voilà que il y a un temps creux jusqu'à l'arrivée des Lombards, 567 et 568. Ces Lombards, qui venaient de Germanie, n'oublions pas que les peuples germains avaient toujours dans le sang et dans la tête l'idée de vaincre l'Italie. Eh oui, que font-ils? Eh bien, après avoir sévi en Pannonie, actuelle Hongrie, les voilà qui envahissent l'Italie du Nord. Ils occupent Pavie, dont ils font leur capitale, ça c'est très fort. L'occupant se fait toujours une capitale, pour être sûr de dominer. Ça, c'est clair. Bon, ça nous rappelle un petit peu les Romains, qui s'étaient fait à un moment, ça n'a pas duré longtemps, de Jérusalem leur capitale pour le Proche-Orient, hein. Puis quand ils ont pu, ils en ont fait autant en Syrie du côté de Palmyre. Bon, mais laissons. Alors, voilà que ça a été... ils avaient mis à Pavie pour roi le roi Alboin. Puis les Lombards ont conquis la Toscane. La belle Toscane, les territoires de Spolète, d'Ombrie, de Bénévent, au nord-est de Naples. Et puis, ça a été malheureusement, les Ariens. Les Ariens ont profité de la situation qui leur était favorable pour massacrer le plus possible de leurs frères chrétiens. Et là, il y a eu un chantier qui a duré pendant plusieurs siècles, celui de la lente conversion de ces peuples germaniques. C'est alors qu'apparut un homme assez extraordinaire, un prêtre espagnol, appelé Oroz, qui a vécu de vers 375 à peu après 420.
C'est donc avec Oroz qu'on va reprendre tout de suite après une pause musicale.
Pendant qu'on se promène, l'enfant pour 5 francs la semaine vient broder des survêtes pour l'homme blanc qui golfe en voiturette, un sale temps sur la planète. Oh, le drôle, de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Chercheur contre nature, truqueur sur l'honneur et qui jure, faut pas que ça vous inquiète. J'ai bien connu l'animal mort dans votre assiette, un sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Tricheur à la tribune, menteur amassant la fortune, grimpeur dans la tempête. Rien que des doses d'eau claire au fond de la musette. Son fils qui lui fait la tête et lui qui court acheter le fusil et les fléchettes. Sale temps sur la planète. Oh, le drôle de temps. Porter secours, c'est défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. L'enfant 5 francs. comme la lune.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Avant que nous n'écoutions Francis Cabrel, Bernard Vacherot, vous nous parliez de Horoz, un personnage qui a marqué son temps.
Oui, justement, Horoz était donc un prêtre espagnol, et il a vécu, je vous l'avais dit la dernière fois, à peu près entre vers 375 et vers 420. C'était un grand admirateur de saint Augustin, lequel d'ailleurs saint Augustin a été très admiré en Espagne. Enfin, ça c'est un aparté. Et voilà que Horoz quitte l'Espagne et va en Afrique du Nord. En partie d'ailleurs, il faut le dire aussi, pour fuir les Visigoths qui avaient envahi l'Espagne et la pillé, et ensuite il voulait offrir à saint Augustin l'ouvrage qu'il avait composé, dirigé contre les hérésies priscillianistes fondées par Priscillien d'Avila, qui était décédé en 386 en Espagne. Alors, quelle était cette hérésie? Quel était l'enseignement de Priscillien d'Avila? Eh bien, il enseignait un ascétisme, une doctrine d'ascète, abusivement rigoureuse, doublée de ce qui parut, à tort ou à raison, j'entre pas, être de la sorcellerie. La chose fut très controversée, en particulier par saint Martin de Tours, qui intervint pour faire même arrêter le procès. Il fut condamné par le pape Léon le Grand en 447, puis par le concile de Braga, ville du Portugal, en 563. Mais, le moins que l'on puisse dire, c'est que la décision de sa condamnation fut dès plus loin de faire l'unanimité en Église. Et contre les origénistes, partisans de la doctrine d'Origène, alors je rappelle qu'Origène a vécu de vers 185 à vers 253, dont fut condamnée d'ailleurs la théorie de la préexistence des âmes. Et oui, c'était la théorie origéniste, elle a été condamnée, et celle de sa vision de l'apocatastase, restauration de toutes les créatures intelligentes dans l'amitié de Dieu après la purification des damnés et des démons par le feu de l'enfer. Bien, ça vous terrorise, ça, hein? Ouais, tu parles. Or, Origène percevait et décrivait sous forme trop allégorique. Alors, cette conception des choses a été condamnée par les papes Athanastase en 400 et Vigile en 543. Hélas, nul n'est prophète en son pays. Eh oui, c'est une vieille loi. Mal comprise, les idées d'Horoz faillirent le faire condamner. Aussi a-t-il rédigé un véritable traité intitulé Apologeticum, c'est-à-dire Apologie, d'où un discours à la gloire de, n'est-ce pas? Et cet Apologeticum était destiné à lutter contre toute accusation d'hérésie. Dans un même ordre d'idées, il a rédigé un autre ouvrage qui s'est appelé « Sept livres d'histoire contre les païens ». En fait, cet ouvrage est une compilation d'œuvres antérieures, de loin, dues à d'autres auteurs, mais qui a une certaine valeur pour la période allant de la fin du IVe siècle au milieu du début du Ve siècle, hein, entre 417 et 420, période de son décès. Après cette transcription, après cette écriture, on ignore tout de la vie d'Orose. Alors, l'une des œuvres d'Orose, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein, c'est intitulé « Adversus Paganos », c'est-à-dire « Adversaire des païens », et au chapitre 7, on va dire texte 41, nous voyons qu'Orose ne perçoit pas les barbares comme aussi féroces qu'on le prétendait, et il dit même que l'on peut vivre avec eux et incite à ce que les missionnaires partent les évangéliser. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il demande une inculturation des missionnaires pour aller évangéliser les barbares.
Alors ça, c'est passionnant parce que là, on est 1000 ans avant la découverte de l'Amérique.
Eh oui, mon cher ami.
Eh oui, mais bon, on va pas pouvoir en parler aujourd'hui.
Ah, hélas, de l'Amérique?
De rien.
Bon, dommage.
À la semaine prochaine.
Bye bye.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caïlus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.